Bonjour Stéphane Audouin-Rouzeau, on est ravis de vous accueillir, alors à distance mais tout de même à la librairie Mola, pour votre dernier ouvrage, La Grande Guerre peut-elle mourir ? Essai sur le référent 14-18 en France chez Odile Jacob, 2023. Alors je vous présente rapidement et comme il se doit, vous êtes directeur de recherche à l'EHESS, spécialiste du fait guerrier et des violences de guerre au XXe siècle. Une trajectoire de recherche que vous avez construite autour de deux grands moments très importants qu'on vous connaît. D'abord l'étude de 14-18, la Grande Guerre, autour de pléthore d'ouvrages, j'en cite quelques-uns. Retrouver la guerre en 2000 avec Annette Becker. Quelle histoire en 2013. Et puis c'est un ouvrage que je cite parce que je l'aime particulièrement, 5 deuils de guerre que vous avez fait paraître en 2001. Et puis, vous avez ensuite consacré votre carrière à un autre grand moment traumatique du XXe siècle, qui est le Rwanda. Et vous en avez tiré un certain nombre de travaux, dont en 2017, Rwanda, une initiation, où vous racontez comment vous êtes venu à cette thématique. Dans le présent ouvrage, vous revenez à 14-18, un peu malgré vous, vous le dites, parce que le politique, les événements récents français vous y ont ramené. Et vous analysez ce que vous appelez le référent 14-18, qui est un tout petit peu différent de la mémoire, c'est-à-dire c'est la référence au passé, à travers quatre moments, quatre crises, ou quatre événements français, à savoir les attentats du 13 novembre 2015, la crise du Covid et la gestion par le confinement, un détour par le centenaire 14-18, qui vous aide à ausculter, d'une certaine manière, la prégnance, la rémanence de 14-18 dans le débat politique français, et puis la guerre en Ukraine. Et donc, dans la petite heure qui va nous réunir, on va revenir là-dessus, on va réfléchir avec vous, on va vous écouter. Et je voudrais commencer par une question absolument banale et simpliste, mais qui l'est peut-être moins qu'on pourrait croire, c'est le référent guerrier, on le comprend. Il est dans le discours politique, il sert à la mobilisation, il est un réservoir. Et en même temps, cette question est toute bête, pourquoi 14-18 plutôt que la Seconde Guerre mondiale, plutôt que la guerre de 1870, plutôt que les guerres napoléoniennes? Pourquoi c'est la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, qui ressort comme réservoir politique?
Alors pour compléter votre question, je dirais, oui, pourquoi la Grande Guerre et pourquoi la Grande Guerre exclusivement en France? Car il n'y a qu'en France, parmi tous les pays, les anciens pays belligérants en 14-18, que la Grande Guerre a gardé ce statut très, très particulier, hein, ce statut de référent. Certes, la Grande Guerre reste très importante au Royaume-Uni. Il suffit d'être le 11 novembre au Royaume-Uni pour s'en rendre compte. Mais il y a d'autres références du passé qui s'imposent, notamment en temps de crise, en particulier, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale, le Blitz en particulier. La France est le seul pays européen et occidental où la Grande Guerre est la dernière catastrophe. Et en écrasant, en quelque sorte, très largement, les catastrophes suivantes, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, éventuellement, par exemple, la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. Alors évidemment, ça pose une question sur la spécificité du souvenir historique français, en particulier dans ce qui m'aura intéressé dans ce livre, c'est-à-dire la sphère politique et médiatique, donc dans une série de crises, effectivement, traversées par d'autres pays, en particulier les deux premières que vous avez citées, le 13 novembre, le 13 novembre d'une part, et puis l'épidémie de Covid, surtout le début, le choc du début de l'épidémie de Covid avec le confinement. Alors pourquoi la Grande Guerre? C'est une question que je me pose toujours, et le livre effectivement essaye de la reposer. La Grande Guerre parce que il n'y a pas eu après 14-18 en France de tragédie comparable, tout simplement. Tout simplement, 1 400 000 morts, 900 morts par jour, une épreuve sociale, politique, culturelle, économique, militaire, sans véritable précédent en termes d'intensité et sans événements qui puissent arriver au même niveau. Ensuite, quelles que soient les tragédies ultérieures, et à mon sens, un deuil de masse qui a concerné une part considérable hein, de la société française et dont je prétends qu'il n'est pas complètement effacé aujourd'hui, au moment si vous voyez, où la troisième génération, la mienne en fait, la mienne a encore la parole hein, et a re-questionné à nouveau frais, en quelque sorte, la, la Grande Guerre, selon le... et il semble pas que donc au niveau de la quatrième génération, c'est-à-dire celle de mes enfants, eh bien la Grande Guerre soit encore effacée. On a donc là la, une durée longue hein, de l'événement. Et puisque vous avez parlé du centenaire tout à l'heure, effectivement, qui se trouve dans le livre, qui est dans une sorte d'analyse hein, du centenaire, eh bien que vous connaissez bien par ailleurs, ce centenaire n'est pas en fait n'a pas réactivé la Grande Guerre. Il est le fruit. Hein, de, il est le fruit, à mon sens, il est le fruit d'une, d'une présence de la Grande Guerre qui fait que ce centenaire a duré 7 ans en France, ce qui est absolument insensé quand on y pense, quand on compare avec d'autres pays où il y a parfois eu pas de centenaire du tout. Et là, le centenaire, voilà, cette intensité du centenaire, pas seulement du centenaire d'en haut, mais du centenaire d'en bas, hein, du centenaire tel qu'il a été pris en charge hein, dans les... Voilà, dans tout le pays, dans les écoles, dans les mairies, voilà, dans, dans toutes les associations, ce centenaire est le symptôme hein, de cette vie hein, de la Grande Guerre encore aujourd'hui. Et c'est évidemment la question que pose le livre, c'est jusqu'à quand hein, cette vie va durer.
Et ce sera l'objet d'ailleurs de la dernière question, c'est-à-dire les perspectives futures de cette durabilité. Donc vous le montrez bien, il y a évidemment, ma question était simple dans la mesure où la Seconde Guerre mondiale en France est compliquée, la défaite, la résistance est un réservoir politique mais complexe, la guerre d'Algérie n'en parlons pas, et donc on voit comme vous le dites, en citant Henri Rousseau, la dernière catastrophe, c'est-à-dire cet énorme événement dans chaque famille française. Vous le travaillez, ce référent, à travers un certain nombre d'événements, on vient de le dire, et le premier que vous décidez d'analyser... C'est ce souvenir traumatique, celui d'un vendredi soir de novembre 2015, qu'on a tendance à rabattre sur les attentats du Bataclan, mais il y a aussi le Stade de France, il y a le reste de ces attentats qui ont marqué non seulement Paris, mais l'ensemble de la France. Et vous montrez comment, à la faveur de la réaction politique et culturelle et sociale à cet événement, on peut voir ce que vous appelez l'étonnant statut mémoriel de la guerre, qui est extrêmement présente. Alors, vous avez, dans votre première réponse, montré la magnitude du référent 14-18, mais à la faveur de ces attentats, quel est le contenu? À quoi sert la référence 14-18 dans un moment de crise comme celui des attentats de 2015?
Oui, la question est vraiment tout à fait pertinente. La question, c'est au fond, quelle est la performativité hein, de ce référent 14-18 dans le champ politique français. En d'autres termes, à quoi sert, à quoi peut servir la Grande Guerre? D'abord, je crois que ce qui est important de souligner, c'est qu'elle ne sert vraiment et qu'elle ne peut servir vraiment que quand l'événement n'a pas de... n'a pas de précédent en particulier. C'est le cas des attentats. Évidemment, il y avait eu des attentats précédemment, l'attentat de Charlie Hebdo, bien sûr, mais il était ciblé. Il avait une... Là, c'est un attentat aveugle avec un nombre de victimes considérable. Et il y a à ce moment-là, je pense, un déficit de sens. On le voit très bien, il y a une stupeur de la population. Sinon, on ne peut pas imaginer un président de la République, qui était François Hollande, s'adressant en pleine nuit donc à ses concitoyens, presque sans aucune préparation, dans une émotion qui est considérable et qui va durer pendant tous les jours qui vont suivre. Donc, l'événement, enfin, les politiques ont besoin à ce moment-là de donner du sens à un événement, de tenter de lui donner du sens. Et à ce moment-là, et c'est ce que le livre essaye de constater, à ce moment-là, ce sens, où est-ce qu'on peut le puiser ? Eh bien, on le puise justement dans le référent 14-18, dans la Grande Guerre, à travers en particulier. D'abord, évidemment, les attentats sont immédiatement rabattus sur une guerre. Hein, c'est la guerre. Hein, les médias, le président de la République le dit, le Premier ministre le dit, mais les médias le disent, ne cessent de le dire, les magazines le disent, c'est la guerre, notre guerre. Voilà, il y a donc d'une part, l'événement est rabattu sur la guerre, mais pas n'importe quelle guerre. Très vite, hein, de manière au moins subliminale, on se rend compte que c'est la Grande Guerre hein, qui sert de référence. Et qu'est-ce qui le prouve ? Ce qui le prouve, en fait, c'est la terminologie, évidemment, hein, qui est à ce moment-là employée, la terminologie, et notamment ce terme qui apparaît très vite, le terme d'union sacrée. Alors, l'union sacrée, c'est un terme, en fait, qui est évidemment très, très connoté. C'est l'appel, évidemment, à l'unité politique par le président Poincaré dans son message aux chambres, donc le 4 août. 1914, une extraordinaire trouvaille sémantique. Hein. Et quand on relit hein, aujourd'hui hein, le discours de Poincaré, on voit bien évidemment immédiatement, on mesure la distance hein, entre la rhétorique politique hein, d'un président du début du XXe siècle en temps de guerre et puis la rhétorique politique des dirigeants d'aujourd'hui. Mais, malgré tout, le terme d'union sacrée, cette trouvaille, hein, a subsisté. Et donc, ce terme de l'union sacrée, hein, qui appelle à l'unité nationale, à l'unité politique, l'unité sociale, bien sûr, puis on, en temps de guerre, en quelque sorte, hein, voilà, c'est le moment, hein, donc, de, en quelque sorte, d'oublier, ou en tout cas de repousser hein, le combat politique à plus tard. Hein, ce qui est évidemment une proposition étrange en démocratie, puisque le combat politique fait est constitutif, hein, bien sûr, hein, de l'expérience politique démocratique, mais hein, cette idée d'une suspension hein, pour créer cette unité, et c'est aussi une injonction. Hein, c'est une injonction du pouvoir politique, hein, et une injonction extraordinairement culpabilisante hein, pour les différents acteurs politiques hein, qui évidemment peuvent difficilement, hein, dans le moment très affecté au sens chargé d'affect, comme celui qui suit le 13 novembre, peuvent difficilement hein, refuser cette unité. Et donc, on rejoue, à quelque sorte, à ce moment-là, se rejoue l'été 14. Hein, alors évidemment, il n'y a pas et ce mot d'union sacrée montre qu'on le rejoue hein, on, et assez efficacement, au moins pour un temps court. Alors qu'évidemment, hein, en 14, hein, l'union sacrée a duré longtemps. Hein, ne seront en réalité réellement et encore pas complètement qu'à la fin de l'année 17.
Alors vous le montrez ici. Il y a ce référent politique qui est loin d'être sans ambiguïté. Puisqu'il appelle aussi les oppositions à se taire et à rentrer dans le rang, comme en 14. Et ce que j'ai apprécié dans ce chapitre-là, c'est aussi la manière dont vous exposez les faits, vous analysez la presse, les discours politiques, mais vous donnez aussi votre avis, vous l'expliquez en introduction, vous pouvez vous le permettre, et donc vous montrez que vous vous méfiez des effets de foule, de l'unanimité, alors vous ne dites pas moutonnière, mais de la masse qui tout d'un coup se met en mouvement, et vous montrez ces ambiguïtés-là, tout en montrant qu'il y a des choses comparables, notamment l'arrivée en masse de jeunes hommes dans l'armée qui s'engagent, un triple des volontés qui se font à ce moment-là. Alors, le deuxième moment que...
Allez-y. Oui, je vous interromps un instant. Tout n'est pas discours dans cette mobilisation du référent 14-18. Hein. Il y a aussi, effectivement, des pratiques sociales hein, qui, effectivement, cette entrée, ce volontariat massif hein, de jeunes gens pour entrer dans l'armée, alors qu'on sait que l'armée française a du mal, hein, avait du mal et a toujours du mal hein, à recruter et à conserver hein, les professionnels donc qui maintenant donc portent les armes, et là d'un seul coup les centres de recrutement français sont débordés par l'afflux hein, de volontaires. Et puis, il y a évidemment tout ce qui touche ensuite aux cérémonies, hein, en particulier la cérémonie qui a lieu dans la cour des Invalides, hein, en présence du président de la République et manifestation du nom sacré et de tous les représentants hein, des partis politiques, hein, et où, là encore, l'appel des morts, hein, l'appel des morts qui commence hein, la cérémonie, fait directement, et vraiment une technique d'ailleurs extraordinairement émotionnelle, hein, bouleversante hein, pour ceux qui assistent. Une technique née après la Grande Guerre, hein, lorsque partout, hein, avait lieu dans toutes les communes, l'appel des morts, hein, le jour du 11 novembre, un appel extraordinairement long. Hein, et bien, c'est cette technique, hein, de mobilisation, hein, qui est réactivée. Et je trouve extrêmement important que ces victimes, qui étaient voilà, généralement des gens qui dînaient, hein, donc, ou bien des gens qui assistaient à un concert au Bataclan, deviennent, sont assimilés à des soldats. Hein, ce sont des victimes qui sont tombées, comme les soldats sont tombés, et qui se sont sacrifiés, dit le président de la République. Hein, comme des soldats se sacrifient, hein, sur un champ de bataille, lors d'un assaut, ou en tenant une position. Or, là, le glissement est tout à fait extraordinaire, parce qu'en fait, elles ne se sont pas sacrifiées, hélas, elles ont été sacrifiées. Mais cette assimilation des victimes à des soldats, hein, qui se sont sacrifiés volontairement, très frappante, comme est très frappante, hein, au cours de l'été, la création d'une décoration, hein, dont on n'a pas beaucoup parlé. La création d'une décoration qui, donc, finalement... assimile ce sacrifice vraiment à un sacrifice militaire. Et au total, on voit bien comment le modèle, hein, le modèle de la Grande Guerre a été prégnant ici et a permis de, finalement, de donner sens à un événement dont le sens échappait largement, hein, donc au départ.
Merci pour cette réponse et aussi de souligner, effectivement, je ne l'avais pas encore fait, que vous analysez les discours, mais également aussi ces rituels républicains, politiques. Vous le faites à plusieurs reprises dans le livre. Et on rentre effectivement dans ce détail de la gestion de la médaille, de la gestion de la reconnaissance publique, etc., et des cérémonies, ce qu'on reverra dans le centenaire, mais d'un point de vue un peu plus critique tout à l'heure. Le deuxième moment que vous analysez, c'est le Covid, donc la crise du coronavirus dont je pense, peut-être, un certain nombre des personnes qui nous regardent se souviennent très bien, c'est-à-dire la montée en pression de janvier-février, puis l'annonce du premier confinement en mars, etc., etc. Et vous le montrez, cet événement d'ampleur mondiale, dont on ne sait d'ailleurs pas bien si l'événement est la maladie ou les pratiques de confinement et de lockdown un peu partout dans le monde, n'est pas comparable au passé. Les gens ne sont pas en mesure, parce qu'on a un déficit de recherche, de les comparer à la grippe espagnole de 1918-19. Les gens ont oublié pour la plupart la grippe asiatique de 57. Et en France, peut-être pas ailleurs, sûrement pas ailleurs, le référent s'impose très rapidement, vous le montrez, c'est de nouveau 14-18, dans son appel à l'unité. Alors, la sémantique est incroyable, je me rappelle aussi à l'époque, la bataille de tranchées des soignants, la seconde ligne, la première ligne, qui font référence au front et à l'arrière. On demande de tenir, ce terme qui est sculpté dans la guerre de tranchées de 14, et puis, encore une fois, l'union sacrée, en permanence, union sacrée, union sacrée. Comment vous analysez ce recours au mythe de la nation unie? Alors même que vous montrez que la comparaison par rapport à la crise du Covid est complètement indue de ce point de vue-là, par rapport à une guerre, on ne fait pas la guerre à un virus. Donc comment vous ressortez de ces années de Covid et de confinement et de ces politiques publiques?
Alors là, cette deuxième crise donc, hein, que j'essaie d'analyser dans l'ouvrage, celle du Covid, en fait, c'est surtout le début de la crise qui est particulièrement intéressant. C'est le moment de la surprise, de la stupeur même, de la stupeur collective. Enfermer la population pendant deux mois et progressivement l'essentiel de la population mondiale, c'était un moment de science-fiction. On ne l'a pas complètement... On l'a sans doute un peu oublié aujourd'hui. Enfin, on ne se souvient plus très bien, peut-être, de notre stupeur du moment. Mais cette stupeur, évidemment, est un point très, très, très important. Hein. C'est parce qu'il y a stupeur et qu'il faut donner du sens, au fond, à cette injonction incroyable qui était celle du confinement, que le référent 14-18 de nouveau est mobilisable. Et il l'est dans cette seconde crise, en quelque sorte. Il est seconde crise, donc en 2020, en mars 2020. C'est le moment vraiment crucial, c'est vraiment mars-avril, hein, 2020. Cette mobilisation du référent 14-18 est menée de manière beaucoup plus explicite, hein, que pour l'attentat du 13 novembre, où le référent 14-18 est mobilisé, mais de manière un peu subliminale. Là, les choses sont beaucoup plus claires. les choses sont beaucoup plus claires. D'abord, effectivement, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Le président de la République, lors de son fameux discours d'ouverture, en quelque sorte, du confinement, le répète à 6 reprises, en début de paragraphe, ce « nous sommes en guerre », qui, évidemment, est extrêmement frappant, qui est absurde, quand on s'en rend bien compte, sinon sur le moment, du moins dans l'après-coup. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas de juger le président de la République. Ce qui est intéressant, c'est de mener une analyse historique, politique, de cette mobilisation du vocabulaire, du vocabulaire de guerre et du vocabulaire de grande guerre. Alors effectivement, il y a d'abord ça, c'est la guerre. Il y a tout de suite l'appel à l'union. Tout de suite l'appel à l'union, et donc de nouveau l'union sacrée vient au premier plan. Alors vous l'avez dit, effectivement, il y a cette image des lignes de défense. La première ligne, les soignants là tiennent le rôle des soldats, c'est parfaitement clair. D'autant plus que évidemment ils meurent. Le premier soignant est tombé, dit le président de la République, tombé. Il n'est pas mort. Non, il est tombé. Et donc ce sont les soldats qui tombent. Et normalement, exclusivement les soldats. Voilà, les soignants sont les soldats, soignants héroïques, et salués comme tels. Et puis, ces lignes de défense successives qui finissent par englober la totalité de la population, même ceux qui ne font rien, simplement, en restant chez soi, en respectant les consignes, on fait partie, au fond, de ces lignes de défense. Les lignes de défense, bien sûr, ce sont les lignes de la guerre de position, qui s'impose en 14-18 à partir de la fin de l'année 14, donc où il y a une première ligne, et puis très rapidement une deuxième, une troisième, et dans les grandes batailles de la Grande Guerre, il y avait parfois 5 ou 6 lignes de défense. Et donc, vous voyez, c'est un imaginaire de la bataille continue, qui est la marque de fabrique, si l'on peut dire, de la Grande Guerre, notamment sur le front ouest. C'est cet imaginaire qui est immédiatement mobilisé par le président de la République. Et puis, il y a d'autres mobilisations plus encore plus frappantes, peut-être pas plus intéressantes, mais plus frappantes. C'est donc dans un discours qui n'est pas le premier, mais qui est un discours un petit peu plus tardif du président de la République, cet emprunt au fameux discours de Clémenceau lors de son investiture en novembre 1917, ils ont des droits sur nous. Alors, dans la bouche de Clémenceau, ils ont des droits sur nous, il s'agissait bien sûr des soldats, dans un discours, là encore, dont la rhétorique, le lyrisme sont à 100 lieues du discours politique d'aujourd'hui, mais ils ont des droits sur nous, ces 5 mots très très courts, le président de la République les saisit aux cheveux, en quelque sorte, pour les remployer à propos des soignants. Et de même, bien sûr, que les soldats devenus des vétérans ne cesseront de rappeler cette promesse, ils ont des droits sur nous, promesse pas tout à fait tenue, évidemment, eh bien les soignants feront de même. Donc, on nous a dit qu'il y avait des droits sur nous. Et on assiste effectivement à une économie morale de la reconnaissance, de même que les soldats ont été le centre de cette économie morale de la reconnaissance à partir du 11 novembre 1918, en particulier lors du 14 juillet 1919. Et bien justement, lors du 14 juillet 2020, eh bien, ceci a été peu souligné d'ailleurs. Un échantillon de soignants sont amenés devant la tribune présidentielle lors du 14 juillet, donc lors de la fête militaire, n'est-ce pas ? Sont rangés devant la tribune, et c'est la tribune présidentielle, tous les invités du 14 juillet, qui applaudit à ce moment-là. Les soignants. Enfin, donc, on est ici devant, au fond, une série de rituels, une série de cérémonies, dont imprégnées des images, des mots, des symboles de la Grande Guerre. Et pour un historien de la Grande Guerre comme moi, évidemment, ça a été évidemment l'occasion, une forme de stupeur, d'autant plus que il n'y a pas que le pouvoir politique qui a ainsi mobilisé cette extraordinaire ressource politique au fond qui est 14-18, dans les réponses de l'opposition en particulier, particulier Jean-Luc Mélenchon, hein, en a appelé donc au moratoire des loyers comme donc au début de la Grande Guerre, à des impôts sur les bénéfices de guerre comme pendant la Grande Guerre, et de manière tout à fait explicite, en disant puisque vous nous parlez de la Grande Guerre, eh bien faites-le, hein, refaites le moratoire des loyers, refaites, hein, l'impôt sur les bénéfices de guerre. Il y a là tout de même, hein, dans ce dialogue, hein, quelque chose d'extraordinaire, hein, sur, bon, bien sûr, l'historicité de notre personnel politique, mais aussi sur ce poids décidément persistant, hein, du premier conflit mondial dans le souvenir historique français.
Oui, tout à fait, et vous le montrez même encore plus loin, dans la mesure où, une fois que la référence 14-18 est installée, les oppositions ne peuvent plus faire autrement que de l'utiliser, notamment au moment du renvoi, de l'exclusion des soignants non vaccinés. Un député, si je ne m'abuse, les compare aux fusillés, hein, donc de 17. Donc on a vraiment le fonctionnel, l'efficace de cette comparaison jusqu'au bout. Ça nous amène ce côté aussi, pas seulement unanimiste, dans l'injonction unanimiste, mais dans la conflictualité, ça nous amène vers le centenaire, puisque que ce soit la crise du Bataclan ou celle du Covid, on est dans ce long centenaire qui commence fin 2013 avec un roulement d'artillerie éditoriale qui commence à ce moment-là, et puis se déroule ensuite jusqu'à la panthéonisation de Genevoix, un déluge local, régional, national, de commémoration, d'activité, qui est donc ce centenaire 14-18. Vous analysez dans le détail un grand nombre de ces commémorations, le moment Verdun, d'autres moments, les discours présidentiels, et j'avoue, j'ai apprécié, parce que vous prenez la liberté, vous pouvez vous le permettre, de critiquer, de non seulement être historien, mais de juger d'une certaine manière ces commémorations, avec des moments assez, assez acides, où vous montrez que ce centenaire dont vous avez été partie prenante dans la mission du centenaire autour de Joseph Zimet, ce centenaire commence sans concept commémoratif. Vous écrivez, vous dites, il y avait un impératif de commémorer, mais sans savoir quoi commémorer. Et vous n'êtes pas tendre avec un certain nombre de commémorations, notamment celle de Verdun, la grande cérémonie de 2016. On est sorti de cette séquence-là. Comment vous la voyez, a posteriori? Comment vous voyez ce grand moment qui a duré 7 ans en France, ses écueils, ses réussites?
Je la vois toujours d'abord avec étonnement. L'étonnement n'a pas cessé. Il n'a pas cessé après. Hein. 7 ans tout de même pour commémorer, souvenons-nous de. Hein, je me souviens bien, j'étais très jeune historien du bicentenaire de la Révolution française. Ça s'est réglé en un an. Hein. On a concentré en quelque sorte plusieurs années et des années vraiment décisives, qui sont le socle, au fond, de notre vie politique aujourd'hui. On a concentré la commémoration en une année avec un grand événement qui avait été effectivement le grand défilé sur de Jean-Paul Goude sur les Champs-Élysées. Et puis, c'était tout. Hein. Effectivement, on commence en novembre 2013, hein, et tout se termine en novembre 2020 avec la panthéonisation de Maurice Genevoix, pas seulement de Maurice Genevoix, de Maurice Genevoix et de ceux de 14. C'est-à-dire qu'en fait, symboliquement, tous les soldats français entrent au Panthéon avec Genevoix, ce qui veut dire avec l'œuvre musicale de Sapin, avec les œuvres de Kiefer qui sont restées. C'est-à-dire qu'en fait, le Panthéon se trouve en quelque sorte annexé par certains côtés, annexé par la Grande Guerre, hein, qui vraiment le remplit, hein, le remplit complètement à partir de novembre de 2020. Ça montre tout de même, hein, ça montre l'importance de ce centenaire, hein, et donc cette durée évidemment m'a beaucoup frappé. Et en même temps, vous l'avez souligné, effectivement, je suis pas tendre, c'est exact. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était très difficile parce qu'en fait, il s'agit de commémorer tout de même une catastrophe. Et c'est très difficile de commémorer une catastrophe. Certes, la France a gagné la guerre, etc., mais ça n'a plus aucune importance. On sait aujourd'hui que la Grande Guerre n'a fait que des vaincus. Et la France a fait partie, en réalité, de ces vaincus. Et donc, comment faire pour commémorer cette catastrophe ? Le centenaire ne peut pas ne pas être funéraire, compte tenu justement de la place qu'a eu le deuil dans la société française, et sans ce deuil, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre que l'événement soit encore vivant aujourd'hui, soit encore mobilisateur d'affect aujourd'hui. C'est par le deuil que la Grande Guerre existe encore dans ce pays. Je parle évidemment des affects qu'elle mobilise. Et voilà, comment organiser un centenaire funéraire ? C'est très difficile, d'autant plus que la France est laïque et privée du secours du religieux, contrairement par exemple à la commémoration britannique. Donc les contradictions étaient vraiment considérables. Et s'il s'agissait uniquement de célébrer la paix, c'est ce qu'on a toujours fait pour célébrer les guerres, mais on n'ajoute rien, le centenaire n'ajoute rien à cette célébration. Donc le centenaire s'est bâti sur une forme de vide ici, de vide du discours politique, et j'ai trouvé ça évidemment très intéressant, à la fois cette longueur et cette relative vacuité. Mais il n'empêche que les deux événements dont on parle dont on a parlé, c'est-à-dire le 13 novembre d'une part et la crise du Covid d'autre part, se sont produits sur cette base continue en quelque sorte du centenaire. Et il est probable, et je suis un peu plus que probable, il est même certain, par exemple pour le Covid, que la présence du directeur de la mission du centenaire, Joseph Zimet, qui a dirigé, faut bien le reconnaître, de main de maître, ce centenaire, au poste où il était, après 2018, le conseiller communication du président de la République, pour la France, a joué un rôle certainement important dans le transfert d'images, de mots de la Grande Guerre et donc vers le pouvoir politique. Outre le fait que dans le cas du Covid, donc puisque c'est Emmanuel Macron qui était président de la République, il y a une culture historique du président, un intérêt bien réel pour la Grande Guerre, une culture historique réelle de cet événement dont les historiens du sujet ont pu se rendre compte lorsqu'ils l'ont rencontré en novembre 2018 à Péronne, et que donc tout cela, il y avait toute une série de passerelles ici qui facilitaient le transfert en quelque sorte de la mobilisation de mots, d'images de la Grande Guerre vers le discours politique et le remploi donc de ces mots, de ces images lors de la crise du Covid.
Merci pour cette réponse. Et effectivement, l'analyse de ce centenaire, alors vous rentrez dans le détail, vous analysez encore une fois les cérémonies, les prises de position, et c'est intéressant de voir comment, encore une fois, ces rituels, ce qu'ils nous disent, et parfois ce qu'ils ne parviennent pas à nous dire. Donc je renvoie évidemment à la lecture du livre, on va pas tout épuiser là. Dans la dernière partie, justement, du livre, une partie plus courte, vous revenez sur la guerre en Ukraine et vous le faites avec précaution, en montrant bien que voilà, février 2022, nous sommes encore dans l'événement. Et en même temps, vous tracez un certain nombre d'hypothèses, vous proposez un certain nombre de lectures qui sont très intéressantes, en montrant notamment d'abord au moment de l'émergence de l'événement de cette guerre européenne en Ukraine, le déni. L'immense déni, le déni de la guerre, le déni de sa durée, le déni de l'attaque envers les civils et le déni de la potentialité nucléaire de ce conflit. Et là, bon, c'est évidemment, on est encore dans l'événement, donc la réponse va elle-même être comme le chapitre, mesurée, je pense. Les gens attendent souvent que le passé nous renseigne sur le présent, et très souvent c'est l'inverse. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine vous a appris sur 14-18 ?
Cette guerre d'Ukraine me paraît avoir, comment le dire, sans arrogance, devrait avoir validé, de manière, une sorte de rétro-validation, de la manière dont moi et mes quelques-uns de mes amis regroupés autour de l'historial de la Grande Guerre de Péronne dans les au début des années 80, à partir des années 80, début des années 90, la manière dont nous avons proposé une lecture nouvelle du conflit, et en particulier pour la France. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, et nous ne pensions pas le voir, nous n'espérions jamais le revoir en Europe, nous voyons une société en guerre, je parle de la société ukrainienne, et une société du consentement à la guerre. Ce que montre le début de la guerre d'Ukraine, c'est un consentement à la guerre qui, s'il ne s'était pas manifesté immédiatement dans la société ukrainienne et en particulier dans ses forces militaires, au départ complètement surclassées, au moins quantitativement par les forces russes, si ce consentement ne s'était pas manifesté, l'Ukraine aurait été vaincue très rapidement. Il y a eu ce consentement, une sorte de d'unanimité sociale, avec effectivement un regroupement autour du pouvoir politique, une union sacrée bien réelle, avec une suspension complète et qui n'a pas cessé depuis, une suspension complète du combat politique, une mobilisation des civils qui commencent à faire des cocktails Molotov, etc., parce qu'ils se préparent, eux, à des combats urbains qui n'auront finalement pas lieu. Et puis, effectivement, une vague de volontariat extrêmement puissante, des acteurs sociaux très éloignés du port des armes, et dont l'âge, d'ailleurs, les éloignait plus encore du port des armes, se portent volontaires, quittent leur emploi, quittent leur famille pour aller combattre pendant ce temps. Et parallèlement, les réfractaires, ceux qui cherchent à quitter le pays, je parle des hommes en âge de porter les armes, semblent avoir été extrêmement peu nombreux. C'est-à-dire que nous nous retrouvons avec une expérience presque en laboratoire, c'est stupéfiant, une expérience très proche de celle qu'a pu être notamment l'expérience française de l'été 14, expérience d'autant plus proche que, évidemment, joue une forme de patriotisme défensif, puisque le pays est envahi et occupé. Envahi, occupé, avec, très vite, on le sait, ce phénomène des atrocités, qui, là aussi, peut faire référence à l'été, l'automne 14, et qui, évidemment, atrocité qui légitime puissamment, à titre au moins rétrospectif, qui légitime puissamment le fait de résister et d'accepter la guerre dans toutes ces douleurs, ces contraintes qui sont évidemment effroyables. Et donc pour un historien de la Grande Guerre, la guerre d'Ukraine est non seulement une forme de réitération d'une expérience très proche, avec notamment ce glissement, ce passage d'une guerre de mouvement à une guerre de position, avec tous les problèmes aujourd'hui de l'ère de position, comme il se posait très largement à partir de la fin de l'année 14 et au cours de l'année 15. On retrouve des problèmes très proches, en dépit bien entendu de la modernisation de l'armement, de la présence des mines, de l'aviation, des chars de combat, mais il n'empêche qu'il domine. Ce qui domine, c'est là. Au fond, c'est ce qui domine le combat, la caractéristique de ce qui se joue sur le champ de bataille, c'est le combat d'infanterie et l'artillerie comme arme de domination du champ de bataille. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation, par certains côtés, très proche. De celle, par exemple, de l'année 15 sur le front franco-allemand. Et donc, il y a à la fois cette réitération, mais aussi cette rétro-validation par l'expérience ukrainienne de ce qu'avait pu être l'expérience française, mais également, bien sûr, allemande et britannique, pour parler des trois grandes puissances du front ouest, ce qu'avait pu être cette expérience de la guerre. Je serais tenté de dire, ceux qui ne croyaient pas à une société du consentement à la guerre, eh bien, regardez l'Ukraine aujourd'hui et demandez-vous si ça n'était pas également quelque chose du même ordre à l'été 14. Ce qui ne veut pas dire que ce consentement est définitif. Évidemment, si, comme il faut malheureusement le craindre, l'Ukraine doit subir un deuxième hiver de guerre, quelle sera l'année prochaine, Que sera l'année 2024 en termes précisément de consentement à la guerre? Évidemment, on ne peut pas le dire à l'état actuel des choses.
1917 est toujours possible, sous toutes ses formes.
Oui, n'oublions pas que pour la Grande Guerre, c'est l'année 16 qui marque le premier tournant hein, en termes justement de consentement avec les premières failles. Et bien sûr qu'une année 2010, voilà, après tout, on a. Voilà, moi j'ai craint beaucoup à partir du printemps un chemin des dames ukrainien hein, qui ne s'est pas produit, mais néanmoins une extraordinaire difficulté de cette contre-offensive. Donc, effectivement, un 1917 ukrainien est peut-être possible, hein, il est peut-être devant nous. On ne peut pas le savoir évidemment à ce stade.
Ou un 1917 russe, mais ça, vous le dites bien.
Un 1917 russe, mais c'est autre chose.
Vous le dites encore bien dans le problème. Livre, cet événement, dans son ampleur, casse aussi, alors c'est des questions intellectuelles, universitaires, mais casse aussi nos structurations habituelles du court XXe siècle, dont on estimait qu'il s'arrêtait justement avec la chute de l'URSS en 91-92, et vous montrez que ce XXe siècle est peut-être en train de revenir et de reprendre son vol et son ampleur. Ça m'amène à la dernière question, justement, cette indétermination de votre question posée, que ce soit évidemment pour cette guerre en Ukraine qui malheureusement au moment où on se parle est toujours présente, mais pour ce référent 14-18, vous écrivez « Décidément, tout indique que nous ne parvenons pas à lui dire adieu à ce référent, à cette guerre 14-18 » et en même temps le titre dit « La grande guerre peut-elle mourir ?» Vous posez cette question de manière un peu plus précise en vous demandant si le centenaire a été l'adieu aux armes du référent 14-18 ou au contraire le passage de flambeau. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Est-il possible de trancher ?
Non, je crois qu'il n'était pas possible de trancher en vertu du principe que l'histoire a plus d'imagination que les historiens. On le voit bien avec la guerre d'Ukraine. Je ne pense pas que c'est le temps à lui tout seul suffise à effacer la Grande Guerre, disons comme dernière catastrophe pour la société française, parce que si c'était le cas, elle aurait dû déjà disparaître. Après tout, elle était en train de disparaître hein, dans les années 70 et 80, même dans les années 60. Dans les années 60, 70, 80, la Grande Guerre s'effaçait doucement hein, et elle est revenue. Elle est revenue hein, dans le souvenir collectif. Elle est revenue, à partir des années 90. Et donc, croire que le passage du temps suffirait à progressivement faire basculer la Grande Guerre du côté de ce que j'appelle les événements morts, c'est-à-dire des événements qui ne sont plus des événements que pour les spécialistes, pour les gens comme nous, hein, mais qui n'intéressent plus hein, la majorité de l'opinion. Je pense à la guerre de 1870, par exemple. Hein. C'est ce basculement du côté des événements morts. Donc, le temps ne suffit sans doute pas hein, à le permettre. Ce qui, à mon avis, pourrait le permettre, et évidemment, on tremble en le disant, hein, c'est évidemment une catastrophe supérieure qui, au fond, déclasserait la Grande Guerre. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas été cette catastrophe supérieure, hein, pour des tas de raisons que vous avez vous-même dites. Mais si par malheur, hein, la guerre d'Ukraine débouchait sur une déflagration générale hein, en Europe, hein, à laquelle, nous ne sommes pas du tout à l'abri hein, de cette déflagration, hein, nous vivons maintenant dans une guerre ukraino-russe banalisée, mais cette banalisation est un piège. Hein, je veux dire, le danger, hein, le danger de débordement de cette guerre, ce danger en fait s'accroît plutôt avec le temps qu'il ne recule. Et ça, évidemment, un événement de cette sorte qu'on ne peut même pas imaginer dans la situation actuelle, un moment comme celui-là pourrait au fond être d'une telle ampleur, d'une telle amplitude hein, qu'il pourrait déclasser hein, la Grande Guerre dans un pays comme la France. Voilà, c'est une hypothèse que je forme évidemment et j'espère qu'elle ne sera pas vérifiée, hein, comme vous en doutez.
Merci pour cette réponse hein, et qui montre que voilà, on vous faites votre travail et on fait notre travail en tant qu'historien en analysant le passé, et sur le présent, on ne peut formuler que quelques hypothèses, même si le regard sculpté à travers les années de recherche permet quand même de dire des choses. Stéphane Audouin-Rouzeau, merci beaucoup. On le rappelle, votre livre, donc « La Grande Guerre peut-elle mourir ?» Essai sur le référent 14-18 en France, chez Odile Jacob. Et merci pour cet entretien très éclairant.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.